Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
In the house.
Radio Rosanna Piperino.
Que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
Nos escales au reportage sont très climat ce soir dans Un jour dans le monde et grâce à elles, vous comprendrez l'urgence et l'utilité aussi des financements mondiaux qui sont au centre des discussions qui ont eu lieu à Paris toute la journée. Nous irons dans le delta du Mékong où l'eau salée pousse les rizières au point que l'on essaye de pousser aussi les habitants à bousculer à la fois leurs habitudes et leur production en faisant du poisson, en faisant de la crevette. Nous irons au Sénégal où l'on installe des kits solaires au-dessus des maisons en attendant mieux et une meilleure électrification pour tous. Autant d'exemples que notre invité connaît bien et pourra aussi commenter. L'argent vert, l'urgence est là. Nous sommes avec l'économiste en chef de l'AFD, l'Agence française de développement qui finance des projets conformes à l'accord de Paris. Ce soir aussi, rendez-vous avec la revue de presse des correspondants en Israël avec un hommage, vous allez le voir, très particulier aux États-Unis avec notamment une histoire d'allégeance au drapeau qui anime la presse américaine. 18h55, l'édito du journal Le Monde, c'est Christophe Fayad et ce franco-palestinien qui est en prison. Le monde est vaste et il se réchauffe. Bienvenue.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Et c'est donc le thème du jour, hein, le grand centre d'intérêt du moment de ce sommet climat qui s'est ouvert à Paris, qui s'est tenu toute cette journée à Paris. Le président Macron a parlé de la nécessité d'un choc des modes de production et en termes de choc, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal de Florence Paracolos, il a dit « Nous sommes en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique ». Bonsoir Gaël Giraud.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste de l'Agence française de développement. Donc vous êtes évidemment dans ce sommet, vous en revenez à l'instant. À l'AFD, vous êtes dans quoi? Plus de 70-80 pays à peu près.
On est présent dans 100 pays.
Encore plus la finance climat, c'est vous. Vous êtes partenaire du Fonds vert, engagé aussi à financer vert, engagé à financer vert à 100%. D'ailleurs, 100% compatible avec l'accord de Paris. Où on en est? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, nous, à l'AFD, c'est 100% accord de Paris?
Oui. On vient d'annoncer ça, donc le directeur général de l'Agence française de développement, Monsieur Rémy Rioux, l'a annoncé officiellement ce matin. L'Agence française de développement est le premier bailleur international à s'engager à faire en sorte que la totalité de ses engagements soient compatibles avec l'accord de Paris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que nous allons vérifier dorénavant que la totalité de nos projets que nous finançons sont compatibles avec la feuille de route que chacun des pays a remise au président de la COP21 à l'époque, Monsieur Laurent Fabius, qui décrit la trajectoire de décarbonation du pays jusqu'à 2025-2030. Et donc nous allons juger chacun de nos projets à l'aune de ces feuilles de route que chaque pays de manière souveraine a adoptées, de manière à éliminer les projets qui ne sont vraiment pas compatibles avec ce que le pays s'est engagé à faire d'ici 2030.
Alors un exemple, en ce moment par exemple, vous travaillez pour quoi? Cette fameuse centrale photovoltaïque dont on a beaucoup parlé au Burkina puisqu'elle a été inaugurée il y a une quinzaine de jours, c'est vous par exemple en partie?
Oui, c'est l'AFD qui l'a financée, la grande centrale de Zaktouli, qui est la première centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Et puis on fait également de la géothermie au Kenya, on fait de l'éolien au Pakistan, on aide l'Afrique du Sud à sortir du charbon. Donc on est dans la quasi-totalité des pays où on intervient, on essaie d'avoir un dialogue de politique publique avec les gouvernements. Alors c'est plus ou moins facile, c'est beaucoup plus dur avec l'Afrique du Sud qui est très embourbée dans la question du charbon, laquelle est elle-même liée à l'apartheid en réalité. C'est beaucoup plus facile dans un pays comme la Colombie, qui est très très affecté par le dérèglement climatique, qui a perdu 2 ou 3 points de PIB simplement à cause de l'effet El Niño il y a un an et demi. Et puis c'est très facile également avec un pays comme le Vietnam, vous parliez du Mékong tout à l'heure. Vous savez que le delta du Mékong est recouvert par l'eau de mer maintenant chaque année, le sel détruit le sol, le rend propre à la riziculture, et c'est juste le grenier à riz de la totalité du pays.
Mais justement, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de partir de zéro, donc dans un pays presque nu, où il ne se passe rien pour l'instant, que de partir d'un pays déjà développé? Vous parliez de l'Afrique du Sud, vous parliez d'endroits comme cela, c'est plus facile de démarrer de rien en fait, non?
Alors, je dirais pas ça, je dirais en tout cas qu'il y a vraiment des effets de ce qu'on appelle du lock-in en mauvais français, c'est-à-dire des impasses dans lesquelles on s'est engagé à cause de décisions qu'on a prises dans le passé, et qui sont en grande partie irréversibles. C'est vrai que si vous avez un système électrique qui est entièrement produit par du charbon, ça va être très difficile de transiter vers un système complètement renouvelable. Si vous n'avez rien du tout, de fait, vous pouvez faire un leapfrog, comme on dit aussi en mauvais français.
Un saut de mouton, évidemment.
Et vous sautez par-dessus la case charbon. C'est ce que nous essayons d'inciter les pays, en particulier d'Afrique, à faire, de manière qu'ils ne passent pas par la case charbon et qu'ils puissent directement passer par la case renouvelable, en particulier pour toutes les solutions qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire... C'est-à-dire toutes les solutions qui sortent du système électrique coordonné, avec par exemple des des petites solutions photovoltaïques portables.
J'entends, alors, par exemple, ces fameux kits au Sénégal qu'on met sur les maisons, on va l'entendre tout à l'heure en reportage dans Un jour dans le monde. Vous disiez sauter la case charbon. J'entends ce que vous dites, il y a certains pays d'Afrique, par exemple, où on a sauté la case filaire pour le téléphone, pour passer directement au portable. C'est ça que ça veut dire. Sauf que même cette centrale photovoltaïque dont vous parlez au Burkina, par exemple, jamais elle couvrira les besoins en électricité. Donc à un moment, on est quand même aussi dans un entonnoir, non ?
Non, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour produire le mégawattheure d'électricité au Mexique, avec du solaire, ça coûte $15. Le même mégawattheure avec du charbon, ça coûte $50. Donc en vérité, le charbon a déjà perdu la bataille économique et aujourd'hui, ça n'a plus de sens économique d'aller chercher du charbon pour produire de l'électricité. Sauf évidemment dans les centrales qui sont déjà installées. Mais si vous n'avez pas d'infrastructure déjà installée, c'est clair aujourd'hui que le renouvelable est meilleur marché et plus profitable que le charbon. Donc il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui pour que quiconque finance des nouvelles centrales à charbon dans quelque pays que ce soit.
Est-ce que c'est pour ça que, et les ONG vous le reprochent, que vous continuez à financer un peu de charbon parce que les centrales à charbon qui existent encore, vous continuez à donner de l'argent? Est-ce que c'est pour ces raisons-là ou pas?
Alors, non, en fait, c'est pas exactement pour cette raison-là. Là, je pense que vous faites allusion notamment à un projet...
Ça existe en Chine.
Dans le Xinjiang, voilà. En Chine. C'est un projet de cogénération de chaleur pour chauffer des bâtiments à partir d'une centrale déjà existante. En fait, si on n'avait pas financé ce projet-là, très vraisemblablement, la Chine aurait construit d'autres centrales à charbon pour produire la chaleur nécessaire. Donc, en vérité, on a réussi à permettre à la Chine d'économiser des émissions. Maintenant, lorsque les ONG nous interpellent, elles n'ont pas tort. C'est sûr que nous, on est engagés dans un débat avec la Chine pour aider la Chine à être plus vertueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour vous donner un exemple très simple, la Chine s'est engagée à obtenir le pic de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et donc, nous, on l'accompagne dans ce projet. Maintenant, après 2030, même si ce n'est pas encore officiel, on sait de manière officieuse que la Chine, pour l'instant, n'envisage pas de réduire ses émissions. Or, nous savons tous que l'accord de Paris, ça veut dire 2 degrés à la fin du siècle, ça veut dire la neutralité carbone sur la totalité de la planète au plus tard en 2050. Et un certain nombre de pays, dont la Suède, viennent de s'engager à l'occasion du sommet pour atteindre la neutralité carbone dès 2025. Donc, ça veut dire que nous, on sait d'ores et déjà que dans les années qui viennent, il va falloir dialoguer fermement avec la Chine pour qu'elle révise elle-même sa propre feuille de route, celle notamment qu'elle va présenter en 2018, en 2020, de manière qu'elle s'engage à réduire ses émissions après 2030. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se substituer à la Chine aujourd'hui et agir à la place de cet État souverain.
Tout l'enjeu, quand je vous entends vous parler de la Chine, je pense aussi à l'Afrique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, tout l'enjeu c'est de concilier à la fois climat et aussi lutte pour le développement, faire en sorte que les deux aillent de pair. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce que les deux vont réellement de pair? Développement et climat, arriver à développer par de la finance verte et de l'énergie verte ou pas?
Oui, vraiment. En tout cas, c'est une option qu'a prise l'AFD il y a déjà une douzaine d'années à la faveur de son ancien directeur général Jean-Michel Severino. Et à l'époque, nous étions vraiment les leaders sur ce point. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les pays du Sud, qui sont en majorité, à part quelques gros émergents, les moins émetteurs, sont aussi les plus exposés et les plus vulnérables au dérèglement climatique. Que ce soit la montée des eaux, l'érosion des sols, la perte de fertilité, la désertification, la fonte des glaciers et le bouleversement des systèmes aquatiques, enfin des systèmes d'eau, tous ces phénomènes-là, les pays du Sud sont les plus exposés. Et on en a déjà cité quelques-uns, le Bangladesh, le Vietnam, etc. Donc aujourd'hui, aider ces pays à devenir résilients au dérèglement climatique, c'est une manière de les aider à se développer, parce que si on ne le fait pas, une bonne partie d'entre eux court à la catastrophe. D'abord, une bonne partie d'entre eux vont tout simplement être rayés de la carte. Je pense aux petits états insulaires du Pacifique, à quelques îles de l'océan Indien, pour lesquelles on travaille particulièrement. Et puis d'autres vont connaître des difficultés majeures. Je pense à un grand pays comme la Côte d'Ivoire, pour laquelle la production du cacao est une part absolument substantielle de son PIB. Bon, depuis 2 ans, la production de cacao baisse considérablement en Côte d'Ivoire, moins 10%, moins 5%, et une bonne partie de cette baisse est due au dérèglement climatique. Si on n'aide pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui à produire du cacao résilient au dérèglement climatique, je ne donne pas cher l'économie ivoirienne dans 30 ans.
Comment vous choisissez ces projets justement? L'AFD c'est quoi? 0,55 du PIB, donc c'est un peu plus que ça n'a été d'ailleurs sur l'argent, le financement. Et comment vous choisissez? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Burkina? Pourquoi pas plus qu'un autre? Comment ça marche en
fait? Nous en fait on est en dialogue constant avec les pays, nos pays partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure, on est présent dans une centaine de pays. On a 80 agences dans les pays du Sud et concrètement ce qui se passe c'est que le directeur ou la directrice d'agence localement est en dialogue perpétuel avec le gouvernement local, avec l'ambassadeur de France, avec les collectivités locales, les entreprises, qu'elles soient françaises ou non, les PME et les ONG. Et donc tout ça, ça fait si vous voulez, un concert à plusieurs voix, une polyphonie dans laquelle l'AFD écoute ce que le partenaire désire, donne des conseils, essaie d'avoir un vrai dialogue de politique publique et, in fine, finance les projets qui lui paraissent les plus pertinents.
Je vous pose la question, Gaël Giraud, parce que ce qu'on a vu beaucoup aujourd'hui à ce sommet climat, ce sont des patrons montés sur scène, ce sont des gens, alors il y a eu les Branson, il y a eu tout ça, des gens qui sont déjà très riches, mais ce sont des entreprises qui viennent et qui s'engagent. Est-ce que le public a vraiment la main ou est-ce que vous allez vous faire manger finalement par le privé, par les grands groupes, par ceux qui ont beaucoup d'argent, qui en ont beaucoup plus à donner que vous? Est-ce que le public tient encore la main là-dedans?
Alors, je ne crois pas du tout que le public risque de se faire manger. Ce qui se passe, c'est que les sommes en jeu nécessaires pour réussir la transition écologique sont phénoménales. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, on estime que c'est entre 50 000 milliards de dollars et 90 000 milliards qu'il faut mettre sur la table dans les 15 années qui viennent pour financer les infrastructures vertes pour avoir les 2 degrés à la fin du siècle.
Ce qui est énormément plus que le fameux fonds des 100, des 100 milliards en 2020 qu'on est censé atteindre et qu'on n'atteindra pas puisque les Américains sont partis.
Probablement qu'on réussira à atteindre malgré tout. En tout cas, c'est vraiment un ordre de grandeur nettement supérieur, c'est plus que x10, c'est de l'ordre du PIB mondial, donc c'est considérable. Les États, à eux seuls, ne peuvent pas y parvenir. Donc, aujourd'hui, heureusement, le secteur privé a pris conscience de la gravité du problème, entre dans la danse. Vous avez eu des déclarations très fortes, hein, par exemple AXA qui s'est engagé dans les années qui viennent à ne plus du tout assurer, par exemple, d'immeubles dont la construction ou le chauffage nécessiterait quelques rapports que ce soit.
Ça, c'était une annonce d'aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Il y a des appels des économistes en pagaille aujourd'hui,
oui,
effectivement.
Donc il y a des annonces très très fortes de la part du secteur privé. Elles sont bienvenues et donc ça ne veut pas dire du tout que le public n'aura plus aucun rôle à jouer. Le public a sa part à jouer, notamment dans l'octroi de ce qu'on peut appeler la garantie publique. Parce qu'une bonne partie aujourd'hui des investissements verts dans lesquels le privé peut s'engager sont des investissements risqués sur lesquels il est très difficile d'évaluer l'impact du dérèglement climatique sur le capital parce qu'il y a une grande incertitude, y compris du côté de la science climatique, sur la façon dont le dérèglement va affecter le capital. Donc les entreprises qui s'engagent prennent des risques. Pour les aider à s'engager davantage, la bonne solution, c'est que l'État, les États, eux-mêmes accordent la garantie publique, vous voyez, à un certain nombre de ces investissements pour ce qu'on appelle dérisquer, c'est-à-dire retirer une partie du risque de ces investissements et le porter sur le bilan de l'État.
Et en même temps, vous savez comme moi, Gaël Giraud, que les entreprises ne sont pas philanthropes. Si demain le prix du pétrole remontait, par exemple, si le prix du baril retapait les plafonds comme il l'a fait à une période, est-ce que toutes ces entreprises seraient tout aussi enclines à dire ce qu'elles ont dit aujourd'hui, à refuser le charbon, à refuser le fossile d'une manière générale, honnêtement?
Oui, toutes celles qui sont des consommatrices n'auront jamais intérêt à ce que le prix du pétrole explose. Les seuls qui ont intérêt à ce que le prix du pétrole remonte, ce sont les producteurs de pétrole, qui ont bien compris eux-mêmes, et Total en tête de file en France, qui ont bien compris que l'avenir, c'est plus le pétrole. Total, aujourd'hui, est en train de diversifier son bouquet énergétique, mais le paquet sur le gaz...
Mais aidé aussi par un prix du baril, enfin, tout ça est une espèce de concordance qui va bien pour l'instant.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, comme vous voyez bien que tout le monde essaie de s'engager du côté d'une taxe carbone qui va surenchérir le coût du pétrole, je crois que c'est plus le sujet aujourd'hui. Le président Macron l'a dit cet après-midi dans son interview au Monde, il invite l'Europe à s'engager sur une taxe carbone à 30 euros la tonne.
Pour l'instant, elle est à 7 à 8.
Alors, ce qui est à 7 à 8, c'est le prix
la tonne. C'est ça, c'est le plancher.
Sur les marchés des droits à polluer. La France elle-même a adopté une taxe carbone à 30,5 sans la TVA. Simplement, il faut évidemment élargir l'assiette de la taxe. Il faut supprimer les exemptions de manière que la totalité du secteur industriel soit touchée par la taxe. Donc, nous-mêmes en France, on a encore des progrès. Mais ce que fait le président Macron, c'est surtout interpeller nos amis allemands pour leur dire « Venez à bord pour avoir une taxe ambitieuse au niveau européen ».
Et quand il dit « Nous sommes en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique », est-ce que c'est une manière de secouer tout le monde ou est-ce que oui, on est en train de la perdre, cette bataille, si on avance tel qu'on est en train d'avancer en ce moment?
Alors, si on continue la trajectoire du business as usual, malheureusement, le président Macron a raison. Nous, les estimations qu'on a faites à l'AFD montrent qu'on est embarqué sur les trajectoires qui sont supérieures à plus 4 degrés. Si les États tiennent simplement les promesses qu'ils ont faites à l'accord de Paris, avec les NDC, donc les fameuses feuilles de route nationales, alors on devrait atterrir quelque part entre plus 3 et plus 3,5. Dans tous les cas, on est très au-dessus des plus 2 et on arrive dans une terra incognita où personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ou en tout cas, on sait que les dégâts vont être absolument cataclysmiques.
Gaël Giraud, chef économiste de l'Agence française de développement, merci beaucoup. Tout ce dont vous nous parlez, les exemples que vous avez donnés, on va les voir en reportage. Et c'est tout de suite dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse, Un jour dans le monde.
Et justement, juste après Florence Paracolos, vous verrez comment le delta du Mékong se remplit d'eau salée, on en parlait à l'instant, menace les rizières et quelles solutions sont trouvées pour pallier cela. Rosalie Lafarge, vous nous emmènerez au Sénégal avec les panneaux solaires individuels dont on parlait à l'instant.
Oui, le Sénégal qui mise vraiment sur le solaire avec les énormes centrales, mais aussi de tout petits kits solaires individuels qui permettent d'éclairer quelques maisons.
Et on voit ça donc dans un instant, la revue de presse des correspondants aussi, c'est à Jérusalem et à Washington ce soir. Voici Sun Little, Omi Omai sur France Inter.
Only a man, only a man, only a man, frozen in time, only a man. Feel the day.
Sun Little sur France Inter. Oh mi, oh my, et voilà Florence Paracuelos.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra del cielo.
Deservi prifo.
60 minutes.
Florence Paracuelos, sous les radars de l'actualité du monde, on part en Chine, Florence, où Big Brother is really watching you, c'est pas de la science-fiction.
Bienvenue dans un pays où 176 millions de caméras de surveillance, il y en a partout et elles vous pistent. À Shanghai par exemple, si vous ne traversez pas dans les passages piétons, votre photo apparaîtra sur un grand écran au carrefour, jusqu'à ce que vous ayez payé l'amende qui correspond à l'infraction. Et il y en a de plus en plus de ces caméras, y compris des caméras à reconnaissance faciale. La société Dahua, par exemple, en a vendu 1 million aux autorités, ce qui leur donne des pouvoirs absolument terrifiants. Chaque visage correspond à une carte d'identité, explique le patron de la société. On peut tracer tous vos mouvements sur la semaine qui précède. On peut faire correspondre votre visage à votre voiture, à vos proches, à vos contacts, et avec assez de caméras, on peut même savoir qui vous voyez régulièrement. Voilà la technologie au service de l'État policier. Un reporter de la BBC a voulu faire le test. Le voilà dans les locaux de la police de Guiyang. Il va demander aux policiers de le retrouver grâce aux caméras. Voyons combien de temps vous allez mettre pour me retrouver. Alors ça, on est sur un pont. Il y a une, deux, trois caméras. Et là, juste derrière moi.
Hello guys.
Bonsoir les gars, je vous attendais. Voilà. Ce reporter qui a été lâché en plein milieu de la ville, eh bien la police a mis 7 minutes pour le retrouver dans une ville de 3 millions d'habitants, ce qui est absolument terrifiant. Ça veut dire qu'on peut savoir où vous êtes n'importe quand et n'importe où. Un dernier usage de ces caméras de surveillance pour la route, Fabienne, dans les toilettes du Temple du Ciel à Pékin. Ne vous avisez pas de venir vous resservir plusieurs fois au distributeur de papier toilette. La machine va vous reconnaître et vous suggérer de revenir plus tard.
Allez, je ne ferai aucun commentaire. On est le 12 décembre, c'est bientôt les fêtes de fin d'année au bureau, Florence.
Oui, alors pas à France Inter, un cadeau parce qu'on n'a on a pas d'argent pour les fêtes de fin d'année à France Inter, mais à France Inter, au moins, on n'a pas de problème de parité, ce
pas
qui est le souci du moment dans la Silicon Valley. Dans les entreprises de nouvelles technologies, les employés, figurez-vous, sont surtout des hommes. Et une fête de bureau avec 80% de mecs, bah, c'est pas très glamour. Donc que font les patrons de ces sociétés de la nouvelle technologie? Ils font appel à des mannequins d'ambiance rémunérés pour venir à ces gros pots de bureau en faisant semblant d'être des salariés. Une journaliste de Bloomberg s'en est aperçue au cours d'une de ses fêtes. Elle a eu des doutes sur certains employés. Elle a enquêté et elle a découvert la vérité. J'ai la facture d'une mannequin payée $150 de l'heure. Parfois, on leur donne un nom et un passé dans l'entreprise. C'est comme ça que les boîtes gèrent leurs problèmes de parité dans ces fêtes. Et puis en plus, c'est une façon de retenir les hommes. Ben oui, parce que les filles sont jolies, hein, évidemment, tant qu'à faire. Mm-hmm. 25 femmes et 5 hommes ont ainsi été envoyés à la fête d'une grosse boîte de jeux vidéo de San Francisco la semaine dernière pour socialiser avec les salariés. Théoriquement, rien de plus, c'est stipulé dans leur contrat.
Vous me direz, nous, un jour dans le monde, on pourrait payer des hommes pour s'asseoir autour de
oui,
nous.
C'est pas faux.
On essaiera de faire ça pour la semaine prochaine. Alors, comment on fait quand on est enceinte et qu'on voudrait bien s'asseoir dans le métro de Tokyo ?
Eh ben, on reste debout, Fabienne, pour trois raisons. D'abord, parce qu'aux heures de pointe, les métros sont bondés. Il y a des pousseurs pour faire rentrer tout le monde dans les rames. Ensuite, parce que c'est très mal vu de parler dans le métro. Donc, pas question de demander, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me laisser votre place? Enfin, et c'est valable aussi chez nous, Fabienne, comme personne ne lève le nez de son smartphone, bah, personne ne réalise que vous êtes enceinte et que ce serait sympa de vous laisser la place. La solution?
Une application, bien
mais
sûr.
Mais bien sûr, une application. Bah, elle a été testée cette semaine. Elle marche comme ça. La future maman envoie discrètement un message via son portable. L'application se met alors à chercher des usagers volontaires dans la rame. Ils se sont préenregistrés sur cette application parce qu'ils sont sympas.
Donc, faut les atteindre.
Les yeux rivés sur le téléphone, ces gens reçoivent l'alerte. Ils répondent et la jeune femme reçoit alors un plan des sièges où apparaît l'emplacement de celui qui veut bien céder sa place. Tout cela peut se faire sans échanger un mot. Ça peut paraître folklorique et très japonais, mais après tout, vu comment ça se passe dans le métro et les transports chez nous, j'ai envie de dire pourquoi pas.
Alors pourquoi pas, en même temps, s'il faut aller chercher la place, donc se faufiler dans un métro bondé, on souhaite bien du courage à l'application, aux femmes enceintes, etc. Florence, merci et à demain.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tono.
A Bombeshmaio.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
On était avec le chef économiste de l'Agence française de développement il y a un instant. On parlait d'exemples de projets avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, en voici un. Nous voici dans le delta du Mékong. Dans le delta du Mékong, je ne sais pas si vous le sentez, mais nous sommes sous la pluie, sous un déluge de pluie. Même ce delta subit son 14e typhon de l'année. Vous savez que nous sommes au sud du Vietnam, 40 000 mètres carrés, une immense plaine rizicole où le riz perd du terrain face à la montée des océans et où le sel pénètre donc dans les rizières. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dominique, nous sommes face à une catastrophe annoncée. Le gouvernement du Vietnam a donc décidé de miser sur sa deuxième ressource économique en développement, les élevages de crevettes et de pangas. Et sans connaître le nom, peut-être que vous savez ce qu'est le panga.
Oui, le panga, c'est un poisson qui vit dans le delta du Mékong, très connu parce qu'il n'est pas cher et parce qu'il a défrayé la chronique. Souvenez-vous, 2006, le panga fait l'objet d'une campagne de dénigrement aux États-Unis. Mauvaise alimentation, absence de traçabilité, le panga est qualifié de poisson aux poubelles. Truong Vinh Thanh, le patron du groupe Sao Mai, troisième exportateur de panga du Vietnam, a donc décidé d'ouvrir les portes de son industrie aux journalistes, même si, reconnaît-il, certains élevages voyous ont existé dans le delta du Mékong. Il veut réhabiliter l'image du panga dont il maîtrise toute la chaîne, du bassin d'élevage au filet surgelé que vous retrouvez dans les supermarchés de 70 pays.
Maintenant, nous connaissons bien le problème. C'est pour ça que les éleveurs, petits ou grands, les industriels comme nous et le gouvernement du Vietnam souhaitent communiquer en toute transparence. On vous ouvre toutes les portes pour vous montrer qu'on a été victime d'une campagne de désinformation. Évidemment, on ne reste pas les bras croisés. on cherche d'autres marchés. Sur cette planète, il y a 7 milliards de personnes qui peuvent manger du panga. Malgré tout, le marché américain reste pour nous un marché intéressant et nous espérons qu'un jour, les États-Unis reviendront sur leur politique.
La filière est en pleine restructuration. Des éleveurs de panga se sont regroupés au sein d'une coopérative. Monsieur Tin dirige l'une d'entre elles. C'est une question de survie pour les professionnels.
On est 11 éleveurs de panga à s'être cotisés pour être ensemble dans la coopérative. Celui qui a mis le plus d'argent est devenu le président de la coopérative. Les capitaux servent à acheter des poissons, à faire de l'élevage, et évidemment, on touche des bénéfices en fonction de l'investissement à hauteur de ce qui a été fait par chacun. Avec le cours du panga qui a chuté, nous travaillons à perte. Vous voyez que les coûts sont élevés, car les exigences appliquées à l'élevage de nos jours sont telles que nous devons faire attention à respecter toutes les règles. Ça fait plusieurs années que nous perdons de l'argent. On ne peut pas se permettre d'arrêter notre activité maintenant. On est obligé de continuer. Si on arrête, on perd tout ce qu'on a investi. On va essayer de tenir le plus longtemps possible en attendant que le marché reparte à la hausse, que les prix remontent et qu'il y ait des marchés nouveaux pour le Vietnam.
À ce problème s'ajoute celui du changement climatique. Le panga fait face à plusieurs défis, relève Madame Lan, basée à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Elle est l'une des responsables de l'association des producteurs et exportateurs de produits de la mer.
C'est très dur pour les éleveurs d'adapter leur production aux saisons. Nous sommes très impliqués avec les producteurs et les exportateurs. La coopération est étroite. Ils doivent prendre en compte ces sujets sérieusement. Comment s'adapter au changement climatique? Il est temps d'avoir la contribution des scientifiques et des chercheurs. En ce moment, nous faisons face à beaucoup de défis. La traçabilité, l'amélioration de la qualité dans notre pays et pour l'exportation.
D'ici 2050, la température de l'eau dans le delta du Mékong devrait augmenter de 3 à 5 degrés. Les chercheurs travaillent sur de nouveaux aliments pour que les poissons résistent mieux à cette hausse. Et puis, de nouvelles maladies apparaissent, explique Leong Phuoc, directeur du secteur environnement à l'Institut de recherche pour l'aquaculture.
Voici le laboratoire sur les maladies des animaux vivant dans le milieu aquatique. Nous faisons des recherches sur les maladies qui touchent spécialement les poissons et les crevettes. Nous analysons les larves des deux espèces. Les éleveurs ont besoin de savoir si les larves de poissons et de crevettes sont de bonne qualité avant de les faire grandir dans les bassins. Presque chaque jour, les éleveurs nous envoient des échantillons et ensuite nous vérifions si les larves sont saines ou pas. Nous contrôlons aussi la qualité de l'eau pour vérifier s'il y a des bactéries.
Le Vietnam veut faire du panga un ambassadeur, comme la crevette. Il est une ressource pour le delta du Mékong, dont les rendements de riz ont baissé de 15% ces 10 dernières années du fait de la montée du niveau des océans.
Dominique André, dans le delta du Mékong, pour Un jour dans le monde, merci. On reste dans la même veine.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et je vous avais promis de vous emmener également au Sénégal, dans Un jour dans le monde. Bonsoir, Jolie Lafarge.
Bonsoir.
Et notamment, la mobilisation financière dont on parlait tout à l'heure, justement, est importante pour un pays comme le Sénégal. Les pays du Sud attendent énormément du sommet qui s'est déroulé aujourd'hui à Paris, parce qu'on leur demande beaucoup d'efforts et que pour ça, Rosalie, ils ont besoin d'argent.
Oui, on leur demande en fait de ne pas faire ce qu'on a fait quand on s'est développé, c'est-à-dire polluer. L'idéal pour limiter le réchauffement à 2 degrés, ce serait que les pays qui se développent sautent la case pollution et passe directement à l'étape énergie propre. Pour les y aider, les pays riches historiquement responsables du changement climatique se sont engagés à payer. L'objectif, c'est au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.
Voilà, mais d'après les experts, et ça on le sait, les associations aussi d'ailleurs, on n'y est pas, ces fameux 100 milliards de dollars. On est même pour l'instant très loin, Rosalie.
Mais on a encore et encore des annonces, mais il faut trouver de nouvelles solutions de financement. C'est d'ailleurs en ce moment qu'on en discute au sommet de Boulogne-Billancourt. Et ce qui est sûr pour le Premier ministre des Fidji, c'est que les fonds sont là, mais on n'a pas encore les instruments pour inciter les investisseurs à mettre leur argent là où il faut.
Alors, de l'argent des pays du Nord pour aider les pays du Sud, il y en a quand même déjà, on l'a vu tout à l'heure. Vous rentrez donc du Sénégal qui, notamment grâce au financement français, essaye de mettre le cap sur le solaire.
Avec d'énormes centrales solaires, au Sénégal, il y en a déjà 4 en activité, bientôt 5. L'idée, c'est évidemment de produire une énergie propre, mais aussi de sécuriser la production d'électricité pour pouvoir alimenter de plus en plus de personnes. Là-bas, en zone rurale, un habitant sur 4 seulement a l'électricité. Autour de ces centrales solaires, les villages doivent être progressivement raccordés. En attendant, le plan B, c'est le kit solaire. Massamba Gueye est le représentant des populations autour de la centrale de Sentiumere.
Il y a le village de Sinkan, le village de Yemen, le village de Dogondou, à qui on a donné des kits solaires qui sont dans certains ménages. Mais ce n'est pas tous les citoyens des villages, bien sûr. Ils ont fait des tirages. Et les premiers ménages qui ont eu à gagner ont installé leur kit.
Et au village de Sinkan, Sania Boundiaï fait partie des tirés au sort. Cette mère de famille a reçu son kit solaire. C'est en fait un panneau solaire installé sur le toit, relié à une batterie, elle-même reliée à une ampoule. Ça se recharge la journée avec le soleil et le soir, on peut allumer la lumière.
C'est vraiment bien, ça permet aux enfants d'étudier le soir, de faire leurs devoirs. C'était pas comme ça avant. Et puis il y a aussi le côté sécurité, on voit où on met les pieds. Et puis ça met un peu de vie dans le village le soir.
Seul regret finalement de Sayna Boundiaï, que tout le monde ne puisse pas profiter de ce dispositif.
Alors Rosalie, les centrales solaires, les fameux kits solaires que vous nous décrivez en ce moment, le Sénégal donc, grâce à elles, semble avoir pris le chemin du renouvelable. Est-ce qu'on peut pour autant se passer complètement de l'énergie fossile?
Là, tout de suite, non. Le Sénégal réfléchit aujourd'hui à des solutions de stockage de l'énergie propre parce que les centrales solaires, c'est bien quand il y a du soleil, mais quand il n'y en a plus, le soir, la nuit, il n'y a plus d'énergie non plus et les centrales thermiques prennent le relais. De toute façon, globalement, la production d'électricité au Sénégal repose encore largement sur le pétrole et on est loin de la fin du fossile pour Karim Ndiaye. C'est le directeur des investissements de Meridiam, promoteur de plusieurs centrales solaires.
C'est pas terminé par la force des choses, surtout qu'on vient de découvrir des réserves importantes du gaz et du pétrole. Donc non, c'est pas terminé. La vocation, c'est à partir de 2021-2022 d'avoir des grosses unités de production au gaz, des centrales qui pourraient tourner aussi en même temps avec du fuel et avec du gaz. Tous ces projets-là devraient permettre de même diviser le prix de l'énergie par deux dans moins de 10 ans.
Et c'est bien l'un des grands enjeux parce que l'électricité coûte cher aujourd'hui au Sénégal, 17 centimes d'euros le kilowattheure. À titre de comparaison, en France, on est autour de 13 centimes. En Italie, on est plutôt à 6 centimes.
Rosalie Lafarge dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Tiens, voilà, Nick Cave en duo avec Kylie Minogue. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas du tout, cette histoire.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.
Allez, on s'excuse pour Nick Cave et Kylie Minogue, mais on est en retard.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous d'Un jour dans le monde avec les correspondants de France Inter. Bonsoir Washington, bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Greg, on commence par une femme qui fait la une de pas mal de journaux chez vous qui s'appelle Nikki Haley. On commence à la connaître, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. On l'a vu la semaine dernière défendre face au reste du monde Jérusalem, capitale, ce que voulait Donald Trump. Et vous, vous nous dites que cette diplomate a un grand avenir en politique.
Ah, c'est pas moi qui le dis, mais la presse américaine. Regardez, rien que cette semaine, deux très longs papiers sur Nikki Haley. Le premier dans le New York Magazine avec ce titre « Nikki Haley peut-elle sauver le monde ?» et donc Glamour. Le magazine écrit « Elle a beaucoup de choses à gérer, la Corée du Nord, la Syrie, la Russie et le président le plus controversé de l'histoire contemporaine américaine. » Alors, dans ces deux papiers, vous apprendrez pas mal de choses sur Nikki Haley. Elle a 45 ans, ses parents sont originaires du Pendjab en Inde. Elle a été gouverneure de Caroline du Sud avant d'être nommée aux Nations Unis par Donald Trump. Et oui, on lui promet un bel avenir ici à Washington depuis des semaines. La rumeur dit qu'elle pourrait bientôt remplacer l'actuel secrétaire d'État Tillerson. Et pourquoi pas aller plus haut? Pour l'instant, elle est très loyale vis-à-vis de Trump, mais dans la perspective de la présidentielle de 2020, elle est sans conteste une étoile montante du Parti républicain. Et vous verrez, Fabienne, qu'on en reparlera sans doute.
Ben on verra ça et on verra ça ensemble. Tiens, ça n'a rien à voir. Grégory, mettez la main sur le cœur pour voir. L'allégeance au drapeau que tout le monde connaît aux États-Unis, voilà une affaire, Grégory, qui secoue la presse chez vous avec cette question, est-ce qu'on peut rester debout pendant cette allégeance au drapeau ?
Oui, c'est-à-dire dans le Washington Post de ce matin, vous savez qu'aux États-Unis, dans toutes les écoles du pays, la journée débute par cette petite cérémonie, mais polémique dans l'État de Virginie parce qu'un collégien refuse depuis le début de l'année de se lever. L'élève explique que c'est pour protester contre le racisme, un peu comme les footballeurs qui mettent le genou à terre pendant l'hymne américain. L'élève a été sorti de la classe par l'enseignant, mais le professeur avait tort, car j'apprends dans ce papier que en 1943, la Cour suprême des États-Unis a estimé qu'on ne pouvait pas forcer les élèves américains à réciter ou à participer à ce salut au drapeau.
Voilà, en voilà un qui va rester assis et pour un bout de temps. Kevin Spacey, en un mot, Grégory, dont on connaît la fin de carrière pour des histoires de harcèlement, a un film nommé au Golden Globe alors.
Oui, à lire dans le New York Times ce matin, Tout l'argent du monde, le film de Ridley Scott, a 3 nominations. Spacey avait commencé le tournage, puis il a été licencié à cause de ses affaires de harcèlement. Il a fallu retourner des scènes avec un nouvel acteur, Christopher Plummer, et qui est donc nommé dans la catégorie meilleur second rôle masculin. Kevin Spacey a été tout simplement effacé du film qui sort à la fin du mois aux États-Unis et en France.
Ben voilà, au moins Christopher Plummer qui remercie Kevin Spacey. En ce moment, ils sont pas si nombreux. Merci beaucoup, Grégory. Bonsoir, Israël. Bonsoir, Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, en Israël, en ce moment, on imagine que la reconnaissance de Jérusalem tient toujours les gros titres ou pas ?
Eh ben pas véritablement. Le pays en fait retrouve ses débats intérieurs. La presse titre sur les mesures pour doper le pouvoir d'achat et sur un tour de vis en préparation autour des fermetures lors du Shabbat. Finalement, le retour à la vie normale en Israël. On trouve tout de même des articles très intéressants sur le conflit et notamment sur cette impossible intifada. Malgré les craintes, malgré les appels du Hamas, l'intifada n'aura pas lieu. Anshel Pfeffer dans Haaretz donne 3 raisons principales. D'abord, les territoires palestiniens sont morcelés et soumis à des agendas différents. Gaza cherche la réconciliation. La Cisjordanie préserve son lien avec Israël pour maintenir l'autorité palestinienne. Et Jérusalem-Est cherche à produire un modèle de désobéissance civile pour obtenir des droits. Il y a aussi la peur de perdre. Les morts de la deuxième intifada restent en mémoire. Et les images des destructions en Syrie et au Yémen marquent les esprits des Palestiniens. S'il y a du désespoir dans la population, écrit le journaliste, il y a aussi du pragmatisme, notamment sur le plan politique et un besoin de vivre et de laisser vivre les Palestiniens.
Mais Étienne, est-ce qu'il y a un contrepoint palestinien sur cette disparition de la question de l'intifada ?
Alors le sociologue Jamil Hilal dans une tribune évoque aussi le nouveau visage palestinien. Les frères et les camarades d'avant Oslo ont laissé la place à une société libérale dans laquelle les intérêts personnels prédominent autour d'un pseudo-État, dit-il, qui repose sur une hiérarchie rigide, hiérarchie qui a absorbé les cadres des partis politiques et qui leur a donc retiré la capacité de mobilisation populaire. La Palestine, victime de son absorption par le monde libéral. La classe moyenne veut garder ses acquis. Les classes populaires ne sont pas représentées et une part importante de la population dépend du marché israélien. Il n'y aura donc pas d'intifada, prédit Jamil Hilal. La situation va rester volatile, comme on dit, explosive, mais les moyens d'organisation manquent pour un soulèvement. Ce qu'il faut maintenant, dit le Palestinien, c'est de démanteler la structure coloniale de l'autorité palestinienne créée par Oslo pour structurer l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui d'après lui s'est retrouvée marginalisée par les nouvelles institutions.
Et puis Étienne, une toute dernière chose, puisqu'on se remet à peine ici de la mobilisation de Johnny, chez vous aussi il y a eu hommage, il y a eu mobilisation, mais dans un tout autre genre, ce qui montre bien d'ailleurs que chaque pays a ses idoles et sa façon de leur dire au revoir.
Oh oui, c'est un autre registre puisque cet après-midi dans le sud de Tel Aviv a eu lieu un rassemblement monstre en hommage à l'une des plus importantes figures religieuses du pays. 200 000 personnes se sont serrées dans les rues de Bnei Brak pour saluer la mémoire du rabbin Steinman. C'était un leader incontesté, vénéré de la communauté ultra-orthodoxe. Il a régné sur l'une des formations politiques impliquées dans différentes coalitions. Il a participé au difficile rapprochement des ultra-orthodoxes et de la société israélienne. En France, donc, pour faire sortir les foules, il faut une idole du rock. Et vous le disiez, en Israël, il faut une figure religieuse.
Et bien voilà, c'est pour ça qu'on aime tant faire le tour du monde dans cette émission. Merci beaucoup, Étienne Monin. On va rester en Israël. Tiens, avec Christophe Ayad du journal Le Monde, c'est maintenant. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et puisqu'on était à Jérusalem à l'instant, nous y restons. Vous allez nous parler d'un de ses habitants.
Oui Fabienne, un hiérosolimite, comme on dit en langage savant. Bref, un habitant de Jérusalem, c'est plus simple. Il s'appelle Salah Amouri. C'est un jeune franco-palestinien de 32 ans, mère française, père palestinien. Il est étudiant en droit. Un peu âgé, vous me direz, pour un étudiant. Mais c'est parce qu'il a déjà passé 6 ans en prison, entre 2005 et 2011, ce qui a quelque peu retardé sa scolarité.
Alors certes, pourquoi voulez-vous nous en parler aujourd'hui ?
Parce qu'il est à nouveau en prison, Salah Amouri, et que peu de monde s'en soucie. Le 23 août dernier, les forces de sécurité israéliennes sont venues l'arrêter chez lui. Interrogé par la police, il n'a à ce jour été ni déféré devant un juge ni inculpé. Il est détenu en vertu d'une loi qui remonte au mandat britannique et qui autorise la détention administrative. Israël s'en sert abondamment de la détention administrative. Au 1er novembre, ils étaient 450 Palestiniens emprisonnés sous ce régime, dont un certain nombre de mineurs. Les visites sont strictement limitées, il n'y a pas de droit de la défense puisqu'il n'y a pas de procédure judiciaire. C'est un régime d'un autre âge et qui n'est pas digne d'une démocratie. La situation de Salah Amouri est d'autant plus cruelle que son épouse, française, Elsa Lefort, est interdite d'entrer en Israël depuis bientôt 2 ans. Autre cruauté, 3 jours avant son arrestation, Salah Amouri venait de passer le concours du barreau palestinien pour devenir avocat, le métier de ses rêves.
Mais alors qu'est-ce que les autorités israéliennes reprochent réellement à Salah Amouri ?
C'est bien le problème, il ne sait pas, ses proches ne savent pas, personne ne sait. On dispose tout au plus d'une déclaration anonyme de la police qui le soupçonne de s'être engagé dans, je cite, « des activités politiques illégales ». En fait, il est un membre actif de Adamir. C'est une ONG qui défend les droits des prisonniers palestiniens. Et Salah Amouri, il en connaît un rayon sur le sujet, puisque, comme je vous l'ai dit, il a passé 6 ans dans une prison, dont 3 en détention administrative. Il était accusé à l'époque d'avoir projeté d'assassiner le rabbin ultra-orthodoxe Ovadia Yosef et aussi d'appartenir au FPLP, un groupuscule palestinien de gauche. Il a été condamné à 7 ans de prison en 2008 par un tribunal militaire, mais le procureur n'avait à l'époque pas produit une seule preuve matérielle. Le jeune homme avait fini par accepter de plaider coupable pour obtenir une peine réduite de moitié, 7 ans tout de même. Finalement, il a été libéré fin 2011, 6 mois seulement avant le terme de sa peine. Israël l'avait inclus dans un échange de prisonniers avec Gilad Shalit, un jeune soldat franco-israélien, lui, otage du Hamas à Gaza. Cette nouvelle arrestation de Salah Amouri ressemble donc à une forme d'acharnement.
Alors, une dernière question, que fait la France pour Salah Amouri ?
À l'époque de sa première incarcération, les autorités françaises avaient fini par se mobiliser pour obtenir sa libération. Emmanuel Macron, lui, a choisi la discrétion par souci d'efficacité, dit-on à l'Élysée. Si le sort de Salah Amouri a été évoqué durant le tête-à-tête qu'il a eu dimanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son nom n'a pas été prononcé lors de la conférence de presse qui a suivi. Espérons que cela lui sera profitable, même s'il est permis d'en douter.
Christophe Ayad du journal Le Monde, merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, Europe ce soir avec Stéphane Leneuf. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Fabienne.
En direct de Strasbourg, comme à chaque session parlementaire, pardon Stéphane, vous allez nous parler Brexit.
Oui, je vais vous parler Brexit parce que l'accord effectivement qui a été signé la semaine dernière, c'est-à-dire les conditions du divorce, certes elles sont actées, mais il y a encore beaucoup de questions en suspens. Cet accord a finalement énormément de failles puisque Michel Barnier le reconnaissait lui-même, il va falloir le travailler, le consolider, le préciser. Donc ce soir, eh bien, j'attends vos questions bien sûr sur les réseaux sociaux, le hashtag Telson et au 01 45 24 7000 pour décrypter un petit peu cet accord Brexit qui reste encore beaucoup à travailler pour l'avenir.
Merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure. We'll be right back.